Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. Depuis 2002, les entretiens d'Auxerre, entendez les entretiens organisés en la ville d'Auxerre, en Bourgogne, par le Cercle Condorcet et la Ligue de l'Enseignement de Lyon, et dirigés par un comité scientifique placé sous la direction de Michel Vivorca, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, ces entretiens s'affirment tous les ans un peu plus comme un moment privilégié du débat intellectuel. Et en cette fin d'année 2008, c'est l'alimentation qui était le sujet des interventions et des débats, un thème riche s'il en est, tant il est vrai que se nourrir condense un immense ensemble de questions économiques, culturelles, éthiques et morales, sociales, politique et géopolitique. Cela étant, si à une extrémité du spectre la nourriture ne manque pas, à l'autre extrémité, ce n'est pas tant la famine que la faim, la sous-alimentation chronique et la malnutrition qui exercent leurs ravages. C'est ainsi que 2 milliards d'humains, sur les 6,6 milliards que compte la Terre, y sont mal nourris, vivant avec moins de 2 dollars par jour et un apport énergétique inférieur à 2700 kilocalories. Et plus de 850 millions avec moins de 2200 kilocalories ont faim chaque jour. Toutes les 5 secondes, assure la FAO, la branche des Nations Unies dédiée à l'alimentation et à l'agriculture, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim quelque part sur le globe et le manque de nourriture fauche 25 000 personnes par jour, soit 9 millions par an. La faim gagne donc du terrain, d'où cette question posée par Action contre la faim, à quand un plan Paulson pour les affamés. À mes côtés cette semaine, pour évoquer la situation alimentaire face à la mondialisation et au moment où la crise financière risque d'aggraver cette situation, Bruno Parmentier et Michel Fouché. Bruno Parmentier est ingénieur des mines et économiste et il dirige l'École supérieure d'agriculture de la ville d'Angers. On lui doit notamment Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle, un ouvrage paru en 2007 aux éditions La Découverte. Michel Fouché, lui, est géographe. Il a fondé l'Observatoire européen de géopolitique à Lyon. Il enseigne à l'École normale supérieure, à l'Institut d'études politiques et à l'École normale d'administration. Ambassadeur de France en Lettonie de 2002 à 2006. Depuis 2007, il est membre du Conseil des affaires étrangères. Et comme Michel Fouché a beaucoup publié, je me contenterai de signaler un seul de ses essais, L'obsession des frontières. Il est paru en 2007 à la librairie académique Perrin. Encore un mot pour vous dire, avant de passer la parole à mes invités, que ce numéro d'idées, et j'en remercie toute l'équipe, a été enregistré dans les locaux de France Bleu Auxerre. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, en avril 2008, face à la flambée des prix agricoles, le commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, Louis Michel, a déclaré qu'un choc alimentaire mondial se profilait, moins visible que le choc pétrolier, mais avec l'effet potentiel d'un vrai tsunami économique et humanitaire. Depuis, la crise financière est passée par là. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Bruno Parmentier, votre analyse de la situation.
Écoutez, en matière d'agriculture et d'alimentation, le XXIe siècle a commencé en 2007. Voilà. C'est le moment où les pénuries commencent à arriver. En fait, on a besoin d'augmenter d'environ 2% la production agricole mondiale chaque année. 1,2% au titre de l'augmentation de la population, puisque je vous le rappelle, on a 80 millions d'habitants de plus chaque année. Ça, c'est 1,2% de plus. Et puis, beaucoup plus, parce qu'il y a aussi des millions de gens qui se mettent à manger de la viande et qui donc consomment beaucoup plus de planète. Voilà. Et puis, troisième élément de la demande, le pétrole est cher. On a bientôt 1 milliard de véhicules sur la planète et beaucoup d'entre eux disent « mettez-moi de l'éthanol, enfin mettez-moi du végétal dans mon moteur ». Donc, il faut augmenter, de fait, de 2%. Et on n'arrive pas à augmenter de façon régulière, de 2% la production agricole mondiale. Alors, on a fait le plus simple, parce qu'on a produit beaucoup plus, mais avec beaucoup plus d'intrants. On a consommé beaucoup de terre, beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de chimie. Et au tournant de ce siècle, on doit affronter le réchauffement de la planète qui rend beaucoup plus difficile l'agriculture dans nombre de régions. Et il va falloir produire plus, toujours. En fait, il faut doubler la production agricole mondiale d'ici 2050, mais cette fois-ci avec moins. Parce qu'on aura moins de terres, on a beaucoup moins d'eau disponible, le pétrole et les autres sources d'énergie vont coûter beaucoup plus cher. En plus, on va demander de produire sur nos terres à la fois de l'alimentation et de l'énergie. Et la chimie n'en peut plus. La chimie est au bout de ce qu'elle peut donner. Donc, si on ne fait pas une révolution complète à la fois des technologies agricoles et à la fois de l'Organisation mondiale de l'alimentation, ce qu'on a vu depuis un an, 35 pays où il y a eu des émeutes de la faim, c'est le début d'un phénomène qui va être très grave.
Alors voilà une belle introduction, mais encore une précision, Bruno Parmentier. J'ai cité Louis Michel, mais pas tout à fait exactement. Je reprends la citation. Un choc alimentaire mondial se profile, moins visible que le choc pétrolier, mais avec l'effet potentiel d'un vrai tsunami économique et humanitaire en Afrique. Alors ma question est simple, est-ce que le continent africain est le plus vulnérable ?
Oui, alors grosso modo, nous attendons encore 1,1 milliard d'Asiatiques de plus, 400 millions de Latino-Américains de plus et 800 millions d'Africains de plus. En Afrique, grosso modo, la population va doubler, voilà, d'ici 2050. Or, en Afrique noire, aujourd'hui, entre 35 et 50% de la population a faim. La population va doubler et, pour prendre un chiffre qui quand même fait peur, si l'on souhaite qu'en 2050, tous les Africains mangent comme les Européens, c'est-à-dire aussi de la viande, du lait, des œufs, etc., il faut multiplier par 5 la production agricole africaine. Donc on est devant un énorme problème, et on pourrait dire du point de vue géopolitique, je caricature un peu, mais on a toujours 800 à 900 millions de gens qui ont faim. Il n'est pas impossible que ce soit le même nombre en 2050, entre parenthèses, il augmente beaucoup. Depuis le début de la crise alimentaire, la FAO nous dit 75 millions de gens de plus. On est passé de 850 millions à 925. Comme ça continue, pour notre plus grande honte, probablement, début 2009, on va franchir le chiffre symbolique du milliard. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'en 2050, il y aura au moins 800 millions de gens qui auront faim, et ils seront tous en Afrique. Parce que probablement, l'Asie mangera, presque certainement l'Amérique latine mangera, et la faim dans le monde au XXIe siècle va se concentrer dans un seul continent.
Michel Fouché, pour en finir avec cette introduction générale, il y a tout de même un lien, d'ailleurs Bruno Parmentier vient d'employer l'adjectif ou le mot géopolitique, il y a un lien par exemple entre l'insécurité politique et alimentaire. Pour en rester à l'Afrique, Alpha Oumar Konaré, président de la commission de l'Union africaine, rappelait il y a quelque temps qu'au cours des 50 dernières années, le continent a été le théâtre de 186 coups d'État et de 26 guerres. On y compte 16 millions de réfugiés. C'est un problème qui pèse sur la question alimentaire.
Oui, et je crois que c'est très intéressant de réfléchir à ce qu'essaye de faire l'ancien président Konaré. Je commencerai par la fin. Il a lancé, quand il présidait l'Union africaine, un programme frontière. Un programme à la fois de démarcation des frontières et un programme de mise en place de systèmes de pays frontières pour assurer des formes de coopération et notamment de faciliter la circulation des produits alimentaires. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines pénuries ou certaines famines, notamment au Niger, étaient liées à des fermetures un peu arbitraires par d'autres États voisins, notamment le Nigeria, ou alors à des impositions de taxes beaucoup trop élevées. C'est-à-dire que la question est plus dans l'accès que dans la pénurie. C'est la pénurie localisée qui pose problème. Sur les 36 pays que citait Bruno Parmentier tout à l'heure, il y en a, d'après la FAO, il y en a 21 qui sont en Afrique. Et donc il y a une espèce de constante, c'est toujours les mêmes régions, c'est la bande sahélienne, c'est la corne de l'Afrique, et c'est au fond une bande qui va de l'Équateur au Zimbabwe. Quand on regarde les raisons principale de ces phénomènes d'insécurité, on voit très souvent des facteurs de conflit, soit populations réfugiées qui n'ont pas accès à des ressources, ou bien des conflits, les conséquences de dégâts causés par la guerre, c'est-à-dire les systèmes productifs se sont pas remis complètement en marche sur les surfaces nécessaires, c'est le cas du Liberia, l'insécurité localisée, on voit ça sur les piémonts sud de l'Éthiopie en Ogaden, donc le Soudan, c'est évidemment un exemple tragiquement emblématique, mais il y a aussi parfois des phénomènes de sécheresse, etc. Mais la plupart du temps, en effet, l'absence d'autorité de l'État, la captation des surplus, les choix d'exportation se combinent à des facteurs beaucoup plus locaux qui impliquent des réponses d'abord locales.
Alors nous allons revenir sur tous ces points dans la seconde partie de cette émission, parce qu'effectivement c'est très important. Je voudrais revenir un peu, peut-être avec vous Bruno Parmentier, sur l'état d'une paysannerie. Je m'explique, en avril dernier, de nombreux éditorialistes de la presse française ont souligné que les pays riches, en imposant leur système économique aux pays du Sud, étaient en partie responsables des émeutes de la faim. Alors j'entends bien, ils ont dit en partie. Mais quelle est la dimension importante de cette partie? Je vous pose la question parce que il me semble que les pays en développement ont été les premiers à sacrifier leur paysannerie sur l'autel, alors, de l'urbanisation, de l'industrialisation, et ça bien avant la crise que nous connaissons.
Alors je pense qu'il y a une conjonction des deux. Il n'y a plus d'agriculture vivrière efficace en Afrique. Voilà. Alors qui est-ce qui l'a détruite? En fait, on l'a détruite depuis 20 ans. On s'est employé à la détruire. Alors, sociologiquement, il n'y a pas beaucoup de gouvernants dans n'importe quel pays du monde qui sont des fils de paysans. Alors en Afrique, comme partout, c'est plutôt des fils de commerçants. Donc c'est normal, ils résonnent aussi dans leur culture. Et puis deuxièmement, chaque fois qu'un pays n'a pas pu rembourser sa dette, est venu entre les mains des organisations aux mains des pays riches, on va dire, le FMI, l'OMC, etc., etc., on lui a expliqué que les fonctionnaires de l'agriculture, ça coûte très cher. Et que d'ailleurs, l'agriculture vivrière, ça coûte très cher en Afrique. Il y a des pays qui font ça beaucoup mieux et qu'il y a des surplus dans le monde. Regardez, il y a des surplus de riz en Thaïlande, il y a des surplus de blé en France, il y a des surplus de maïs aux États-Unis.
Autrement dit, il vaut mieux une culture d'exportation et je dirais un trafic exportation-importation pour les taxes.
Voilà. Alors, d'abord, l'État vit très largement sur le port, hein, en taxant ce qui rentre et ce qui sort. Et deuxièmement, effectivement, regardez par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, on faisait de l'agriculture, on avait de l'irrigation. Aujourd'hui, pratiquement, tout ça s'est dégradé. Les quelques tracteurs qui existaient sont sur le bord du chemin, faute de pièces détachées. Les systèmes d'irrigation n'ont pas été entretenus. Il n'y a plus de techniciens agricoles, ou presque plus. Il n'y a plus de crédit bancaire. Et on a expliqué aux paysans que plutôt que de faire leur culture traditionnelle, il fallait faire des cultures qui ramenaient des dollars pour contribuer à payer la dette de l'État. Alors, le problème, c'est que tant que ce système fonctionnait, ce système produisait du bidonville. Parce que, en fait, les gens qui ont faim dans le monde, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens, c'est des gens de la campagne. Sur les 850 millions de gens qui ont faim, il y a 650 millions de paysans. Et les autres, c'est quasiment des anciens paysans. Et donc, il y a eu cette espèce d'aveuglement mondial consistant à dire, on va nourrir les gens qui ont faim. Mais attendez, on va nourrir qui? On va nourrir des paysans qui sont isolés, très très loin, leur amener des produits pondéreux, chers et périssables? Évidemment que non. Donc le problème, ça n'est pas de nourrir les gens qui ont faim, c'est d'arrêter de les empêcher de se nourrir eux-mêmes. Et donc, ce système, emblématiquement, c'était aussi celui de la finance internationale, il est en train de s'effondrer. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'un bateau de blé français, largement subventionné, ou bien de riz thaïlandais rentrait dans le port de Dakar, il y avait deux choses. On entraînait ces gens-là à manger des produits qui n'étaient pas originaires de chez eux. Hein, le riz, grosso modo, c'est les Français colonisateurs qui l'ont imposé en disant on va faire des débouchés à l'Indochine. Et puis maintenant, le blé, on ne peut pas imaginer que le Sénégal va être un gros producteur de blé. Et puis deuxièmement, ces produits arrivent à un prix nettement inférieur au prix de production. Donc chaque fois qu'un bateau rentre, c'est 500 paysans qui rejoignent le bidonville de Dakar. Et pour le moment, l'OMC, le FMI, etc., arrivait à nourrir, entre guillemets, le bidonville de Dakar avec des bateaux qui arrivaient de surplus. Ce qui s'est passé en 2007 et 2008, c'est qu'il n'y a plus de bateaux, parce que la Thaïlande a dit, au prix où elle rit, je ferme mes frontières, il n'y a plus d'excédent. Et donc ce système est en train de se casser les figures, et du coup, les pays qui ont négligé leur agriculture vivrière se sont trouvés en première ligne, parce que la grande différence entre un paysan qui a faim et quelqu'un de la ville qui a faim, c'est qu'ils sont nombreux, ils sont ensemble, et ça se voit, ils protestent. Et donc, on est maintenant devant ce grand défi, est-ce qu'on va reconstituer la chose de base ? Il faut que les paysans se nourrissent eux-mêmes déjà.
Alors, au cœur, évidemment, du problème de l'alimentation mondiale, on le voit bien, et ça pour le grand public, les biocarburants. Alors, je ne sais pas s'il faut évoquer cette question au fond, mais tout de même, on a encore en tête la phrase un peu forte de Jean Ziegler, membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui dit « La production massive de biocarburants est aujourd'hui un crime contre l'humanité ». Bon, très bien. Mais j'interroge le géopoliticien Michel Fouché. Est-ce que des pays qui se sont lancés, je dirais, tête en avant, passez-moi l'expression, dans la production massive de biocarburants, est-ce que ça va changer un peu les équilibres mondiaux ?
Je crois que là aussi, il faut essayer de faire des réponses qui tiennent compte, je dirais, des trajectoires économiques des États. Dans le cas du Brésil, qui est certainement l'État qui s'est le plus avancé dans ce domaine, à partir essentiellement de la canne à sucre, c'était au départ une question quasiment d'indépendance nationale, parce que c'était un État qui n'avait pas encore atteint son autosuffisance en matière pétrolière. Alors il se trouve que maintenant la compagnie Petrobras commence à faire des forages extrêmement profonds dans l'Atlantique Sud et à renverser cette situation. Mais c'est un choix qui a été fait et qui a été d'ailleurs salué à l'époque. Qui a été salué puisque ça permettait d'être plus indépendant, ça limitait certaines formes de pollution et c'était, on circulait avec au fond un éthanol produit localement. Donc je ne partage pas l'analyse de Ziegler. En revanche, c'est vrai qu'avec la hausse des prix du pétrole, parce qu'il y a un lien quand même tout à fait extraordinaire quand on regarde les courbes depuis 2000 entre la hausse des prix du pétrole et la hausse de produits agricoles de base, il y a eu aux États-Unis en particulier des plantations, par exemple, de maïs qui ont été utilisées pour le biocarburant, au moins 10% de la production de maïs. Et pour le soja, on en est déjà à 8%. Donc, en effet, et la mode a commencé en France avec, je crois, le colza. Donc, en effet, il y a un risque, là, majeur de soustraction, en quelque sorte, de capacité de production alimentaire pour d'autres usages. Mais ça ne concerne pas, par exemple, directement l'Afrique. Il y a une exception en Afrique du Sud. En Afrique, il s'agit de tout autre chose. Et je crois que moi, je ne peux que partager ce qu'a dit Bruno Parmentier, et qui est, je crois, l'essentiel du message politique qu'il faudrait retenir, c'est que l'agriculture vivrière a été liquidée pour toute une série de raisons, y compris les contraintes du Fonds monétaire international, nos propres intérêts, des complicités locales, le système de taxation, et qu'il est absolument urgent de revenir à des politiques d'assistance bien conçu pour permettre sur la longue durée à ces États d'atteindre un minimum de sécurité alimentaire en production locale. Simplement, au moment où on découvre ça, les prix recommencent à baisser. Et on reparle de négociations à l'OMC. Je crois qu'il est absolument invraisemblable que ces questions agricoles soient maintenant traitées au niveau de l'Organisation mondiale du commerce.
Eh bien, Michel Fouché, Bruno Parmentier, nous allons simplement maintenant marquer une pause afin de faire place au journal de la rédaction. Mais bien sûr, vous restez avec nous et dans une dizaine de minutes, vous allez continuer à nous instruire sur la situation alimentaire mondiale. Je précise que cette émission fait écho aux entretiens d'Auxerre 2008 dont le thème est précisément l'alimentation. Alors, vous souhaitez plus de renseignements, je vous rappelle l'adresse de l'émission id@rfi.fr. À la console technique cette semaine, Frédéric Gastine, et à la réalisation, Marie-Noëlle Gindreau. Restez à l'écoute. Sitôt après les dernières informations, vous retrouvez Bruno Parmentier et Michel Fouché.